Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. Aujourd'hui, toute une question, tabagisme. Pourquoi et comment arrêter? Alors, on va avoir des invités 60 minutes. On va faire le tour réellement. Si vous êtes en train de penser à arrêter de fumer, si vous êtes un ancien fumeur et vous dites alors j'ai bien fait d'arrêter. Si vous êtes dans les questionnements, on va vraiment répondre à toutes les questions considérant que la cigarette, c'est vraiment quelque chose qu'il faut enrayer dans notre vie pour se sentir mieux. Mais on va voir tout ça, on va voir toutes les questions. Alors, avec le docteur Gaston Ostigui, qui est pneumologue à l'Institut thoracique de Montréal, du Centre universitaire de santé McGill et vice-président de l'Association pulmonaire du Québec, il va être là dans quelques instants. Ensuite, on vous donnera les outils. Je vous disais, si vous êtes sur le point de, ça prend des outils et il y en a beaucoup, de plus en plus sur le marché. Comment on fait pour choisir? Quel est le meilleur pour nous? Jacinthe Duprat, pharmacienne, consultante chez Leximed, sera avec nous. Et puis les jeunes, il faut le dire, hein, la plupart des gens ont commencé très jeunes. Malheureusement, quand on se promène souvent dans les cours d'école, on voit ça, on se dit qu'ils sont tout petits et puis ils ont des cigarettes. Alors comment faire pour leur parler à eux, aux jeunes? Comment faire pour pas qu'ils ne commencent ou s'ils ont commencé, qu'ils arrêtent? Alors, on aura justement une jeune leader à ce niveau-là. C'est Victoria Tremblay. Elle est leader de Montréal pour la gang des jeunes allumés. Et puis, la cigarette électronique, on en parle beaucoup. On va vraiment faire le tour avec Mario Bugeaud, qui est directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Mais attends, il y a des bons résultats en ce moment. C'est incroyable. Alors, on va faire le tour de la question avec lui. Et puis, il fallait le faire, hein, donner un coup de chapeau. Alors, notre coup de chapeau, c'est évidemment un coup de chapeau à quelqu'un qui a arrêté, hein, pour le sujet de cette semaine. Et je vous en donne un petit peu. À 22 ans. Qu'elle fumait, c'est pas rien, 22 ans. Et donc, elle va être avec nous à l'émission. On débute avec M. Ostigui. Alors, docteur Gaston Ostigui, pneumologue à l'Institut thoracique de Montréal du Centre Université de Santé McGill et vice-président de l'Association de pulmonaire du Québec. Bonjour, monsieur Ostigui.
Bonjour, madame Stanquet. Vous allez bien?
Ça va et vous?
Oui, merci.
Alors, écoutez, est-ce qu'on est assez informé sur les méfaits de la cigarette? Est-ce que vous trouvez que les gens en savent un peu plus ou il y a encore beaucoup de choses à faire?
Non, je pense que les gens, ça fait plus de 50 ans là, que les gens reçoivent de l'information. Je pense que la majorité des gens sont au courant des méfaits sur la santé. Ils se font d'ailleurs répéter par leurs médecins ou les autres professionnels de la santé. Alors, je pense qu'ils sont bien au courant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle presque toujours 60, 70, 75 % des fumeurs veulent cesser de fumer une fois qu'ils ont pris cette mauvaise habitude-là. Alors, les gens sont au courant. Naturellement, ce qui est très pratique, c'est que si quelqu'un veut cesser de fumer, c'est de tâcher de personnaliser sa situation. Alors, c'est très facile de trouver, lorsque l'on voit un patient, de trouver une raison qui lui est personnelle pour cesser de fumer. Mm-hmm. Naturellement, les raisons varient selon l'âge, mais une couche de la population qui me paraît bien oubliée, moi, c'est le groupe des jeunes adultes. Il y a très peu de choses qui s'adressent aux jeunes adultes. Ils sont habituellement encore en bonne santé, mais souvent, ils commencent à élever une famille. Et là, à ce moment-là, ils vont avoir des enfants, ils vont avoir de jeunes enfants. Et à cause de ça, ils voudraient cesser de fumer. Alors ça, c'est quelque chose qui peut les accrocher. Mm-hmm. L'autre chose qui peut les accrocher, c'est également le fait que s'ils commencent à épargner avec un régime d'épargne retraite ou une autre façon, eh bien, c'est égal. On sait que leurs primes d'assurance vont diminuer de façon considérable, de l'ordre de 30, 35, 40 % selon une compagnie d'assurance, lorsqu'il vient le temps de payer la prime d'assurance. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et troisièmement, les employeurs sont de plus en plus conscients qu'un employé fumeur coûte plus cher. Oui. Le Conference Board du Canada a déjà fait 2 études à peu près à 10 années d'intervalle démontrant qu'un employé fumeur coûtait environ 3 500 $ en dollars ajustés à son employeur comparativement à un employé non fumeur.
Alors, à ce point de vue-là, donc on peut retrouver un petit bonbon financier, mais j'aimerais qu'on le dise, puis on ne le dit pas assez souvent. La personne qui nous écoute en ce moment, qui est en train de fumer sa cigarette, là, c'est quoi les bobos? Ça va où exactement le passage et qu'est-ce que ça va faire après plusieurs années?
Bon, écoutez, c'est un risque. D'abord, on sait que les fumeurs vivent en moyenne 10 ans de moins que les non-fumeurs, et c'est la raison pour laquelle, justement, les non-fumeurs peuvent profiter de réductions dans leurs primes d'assurance. Donc, quelle que soit la raison, en général, les fumeurs vivent 10 années de moins que les non-fumeurs. Alors, c'est sûr que les systèmes qui sont les plus affectés, ce sont les systèmes cardiovasculaires et les systèmes respiratoires. Mm-hmm. Mais souvent, on ne parle que de cancer du poumon. Mais c'est sûr que c'est le cancer qui est le plus facilement et le mieux documenté en relation avec le tabagisme. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le seul cancer. Il y a 11 cancers différents qui sont également en relation directe, documentée, prouvée avec l'usage de la cigarette. Et ça, très souvent, les gens ont un cancer du rein, un cancer de la vessie, et un cancer du pancréas, un cancer de l'œsophage. Jamais on ne leur a dit que ceci pouvait être relié à leurs habitudes tabagiques. C'est bien sûr que des gens qui, dans leur famille, ont vu de leur parenté mourir de ce genre de cancer, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ça peut être un argument qui peut les inciter fortement à vouloir cesser de fumer.
Alors, quand même, c'est pas seulement un cancer, mais vous dites qu'il y en a 11 reliés, donc plusieurs maladies à la cigarette. On écoute en ce moment, il y a des fumeurs qui écoutent, Dr. Ostigis disent, est-ce que quand même je pourrais voir les bienfaits à court terme si j'arrête de fumer? Parce qu'il y en a certains qui vont être déprimés, vont dire ben, c'est sûr que si j'ai fumé, je vais avoir un cancer à tout coup. Comment on peut faire et qu'est-ce qu'on peut dire pour les rassurer?
Alors, c'est bien sûr que si les gens cessent de fumer, le risque de développer ces pathologies-là va en diminuant. Par exemple, si quelqu'un, un jeune adulte, fait une crise cardiaque, un infarctus du myocarde, eh bien, s'il cesse de fumer la cigarette de tabac, il va diminuer de 50 % les risques de refaire un accident cardiaque dans les 12 mois qui vont suivre. Si quelqu'un fait une maladie pulmonaire obstructive chronique, emphysémateuse, bronchite chronique obstructive, si ces gens-là cessent d'utiliser la cigarette de tabac, eh bien, ils vont diminuer de 40 % les risques d'être obligés de venir à la salle d'urgence ou d'être hospitalisés au cours des 12 prochains mois. Donc, ce sont des choses qui surviennent très rapidement. Les asthmatiques, quand ils cessent de fumer, eh bien, peuvent considérablement diminuer leur médication parce que non seulement la fumée de tabac irrite les voies respiratoires, augmente l'inflammation, mais également ça nuit à la médication qu'ils prennent pour se soulager. Alors, les effets sont souvent très, très, très rapides et sur la fonction cardiovasculaire et sur la fonction respiratoire. Et pour la femme, on ne parle pas des femmes enceintes nécessairement, et des enfants.
Bon, c'est qui les têtes dures là, de ceux qui veulent absolument pas? C'est quoi le noyau dur, la clientèle dure où vous avez de la difficulté? Parce qu'il y a même des pas de géant qui ont été faits, faut se le dire, faut être positif. Il y a des campagnes anti-tabac qui fonctionnent, il y a bon, la cigarette électronique, on en parlera plus tard. Mais la clientèle cible en ce moment, où vous dites ça fait du tcha-tcha sur place, c'est qui?
Bon, en général, les gens qui continuent à fumer tabac, c'est parce qu'ils aiment ça, ils trouvent ça bon. Mm-hmm. Mais bien souvent aussi, il n'y a pas de meilleure façon de contrôler son humeur que d'allumer une cigarette. Alors, si on se sent un peu déprimé, un peu triste, eh bien, on prend une cigarette et puis le moral remonte. Et si on se sent très anxieux, on s'allume une cigarette et l'anxiété baisse. Mm-hmm. Alors, c'est une excellente façon de contrôler son humeur. Alors, beaucoup de gens là, qui ont des problèmes de stress ou des attitudes dépressives, eh bien, à ce moment-là, ces gens-là D'ailleurs, on sait, sans que tout le monde soit des personnes psychiatrisées, on sait très bien que 45% de la consommation des cigarettes aux États-Unis est faite par des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ce qui ne représente qu'à peine 7% de la population. Mmh. Alors, c'est une excellente façon de contrôler son humeur, en plus des plaisirs que la cigarette peut obtenir.
La cigarette, on va en parler un petit peu plus tard, mais je sais que c'est votre cheval de bataille, puis vous y croyez. Juste un petit peu votre réflexion sur les bienfaits de la cigarette électronique.
Écoutez, je reviens, on avait à Ottawa en fin de semaine la 7e conférence annuelle sur la cessation tabagique avec des conférenciers d'expertise mondiale. Eh bien, je pense qu'il y a deux problèmes. Pour les gens qui veulent cesser de fumer et qui ont de la difficulté à cesser de fumer, nul doute, comme le disait récemment le ministre Barrett, nul doute que c'est un outil très utile qui vient s'ajouter à la pharmacopée dont on dispose à l'heure actuelle. Mm-hmm. Ça, c'est un problème, c'est un aspect du problème. Bien souvent, les gens en santé publique, eux autres, ce qu'ils regardent, ce ne sont pas les gens qui veulent cesser de fumer et qui ont de la difficulté à cesser de fumer. Ce qu'ils regardent, ce sont les jeunes. Ils ne voudraient pas que les jeunes commencent à fumer en passant par le biais de la cigarette électronique. Alors ça, c'est une crainte qui est justifiée, qui est justifiable, mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, ça fait plus de 10 ans maintenant que la cigarette électronique est utilisée, et ce phénomène-là ne s'est pas documenté. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites, on dit oui, on demande aux jeunes, avez-vous déjà utilisé la cigarette électronique? Utiliser, essayer la cigarette électronique, ne veut pas dire nécessairement l'adopter. Mm. Alors, il faut regarder dans ces questionnaires-là la méthodologie qui a été utilisée. Ils ont d'excellentes statistiques en Grande-Bretagne. Il y avait ça le Smoking Toolkit. Et puis, alors, ils font des enquêtes sur plus de 2000 sujets de façon mensuelle. Et à l'heure actuelle, bien, ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y en a moins de 1% de gens qui optent pour la cigarette électronique et qui virent vers la cigarette tabagique. Mais la très, très grande majorité, 99%, sont déjà des gens qui fumaient le tabac. Vous savez, cigarette électronique, là, pour un jeune, là, c'est, excusez mon anglicisme, mais c'est pas si friendly user que ça. C'est pas si facile que ça à utiliser. Et c'est une dépense au début qui est assez
phénoménale.
C'est quand
même cher aussi, ça, exactement, pour eux.
C'est un investissement qui est dispendieux pour un jeune.
Donc, autrement dit, vos études, et ça c'est intéressant, je l'avais lu aussi, c'est moins de 1%, et rien ne prouve qu'ils prennent la cigarette électronique, ils s'en vont au tabac, et ils l'avaient peut-être pris avant, mais il n'y a rien qui prouve que ça va les mener là, quoi, finalement.
Non, les données européennes dont on dispose à l'heure actuelle n'ont pas fait la démonstration de ce phénomène-là. On reste prudent, ça pourrait possiblement arriver, mais à l'heure actuelle, les données dont on dispose ne nous permettent pas de tirer de telles conclusions.
Bon, très bien. Merci beaucoup, docteur Rostigui.
Ça me fait plaisir, Mme Sankey. Bonne journée.
Vous aussi. Au revoir.
La cigarette tue tout doucement 250 milliards de morts par an. Cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopons sur des conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Ceita. Serge Gainsbourg savait déjà que ce poison emmènerait leur propriétaire au cimetière. Il y a 50 ans, le 16 mai, mourait Django. Il devait fumer des goldos. Ses doigts nerveux, longs et secs, couraient dans les cordes comme sa topec. Grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lutte en poumon magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Ceita. Tassino, abrap, develop, zapta. I come to spray, I rock to spray, I control your ass. When you need a member, me, you go, but I need a member, you go, but I need a member. That's where we are, home, home, to do we have.
Tabagisme, pourquoi et comment arrêter? Vous nous avez écrit et vous êtes nombreuses et nombreux. Alors, je vous lis, Ginette Tremblay dit, ah oui, la clope, mettre tous les mégots fumés dans un pot maçon bien scellé, y ajouter un peu d'eau au fond. L'envie de fumer te prend, tu ouvres le pot, tu respires le contenu et réalises que tu as fumé cette merde, c'est assommant. Ensuite, monsieur Wallet répond aussi le test du Kleenex, tu prends un pot de clope ou bien tu poses le Kleenex sur la bouche, expire la fumée et regarde, ouf! J'ajouterais que la sensibilisation des poumons, emphysème, ça pogne pas, mais cancer de la bouche, langue, trachéo, ouch. Et puis, on a un très beau message de Claudia, qui est membre de notre épique. Et ça, c'est vraiment, je ne savais pas, ça me touche énormément. Elle dit, moi, j'ai arrêté avec Sophie en direct, c'était le nom de mon émission l'année passée, sur la cigarette l'année dernière, et je persiste en me le rappelant pourquoi je l'ai fait. Alors, ça veut dire qu'après, elle a arrêté de fumer. Serge Wallet, il dit, j'ai tenté l'expérience il y a 17 ans et j'ai arrêté de fumer, simplement décidé de jeter mon paquet et mon briquet à la poubelle, sans plus. La force du mental est la seule solution. Remplacer une cigarette par un verre d'eau peut aider. Michel Laurence dit, ne serait-ce que pour cesser de fumer son argent, de jeter son argent par les fenêtres et se venger d'un gouvernement abusif. Mais dit plus sérieusement, j'avance en âge et je ne veux pas être un fardeau pour ma femme et mon fils. Alors je mène présentement le combat pour arrêter définitivement. Alors bon combat, Michel Laurence. Et puis Nicole Degg dit, l'odeur que l'on laisse de soi sur ses vêtements, peau, haleine, fumée dans la maison, pénètre les tissus, rideaux et tapis, ça pue. Et les enfants rouspètent car la fumée les dérange en plus de la mauvaise odeur et l'entourage, maison, bureau, etc. Alors voilà, vous nous écrivez jusqu'à 13h. Claudia Benoît est en studio, puis elle l'a fait. Alors vous êtes capable, c'est la preuve hein, qu'on peut le faire. Justement, mais comment faire? Ça nous prend des outils. Et Jacinthe Duprat, pharmacienne consultante, est en ligne chez Leximed. Bonjour, Madame Duprat.
Bonjour, Madame Stanquet.
Vous allez bien?
Oui, vous-même?
Oui, très bien. Alors, dites-moi, c'est ça, ça prend des outils. On est un peu perdu quand on commence. On ne sait pas exactement. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein, c'est qu'on est, on doit se poser plein de questions parce qu'il y a énormément de choix. Comment on fait pour aller au timbre, la gomme, l'inhalateur, le vaporisateur? Qu'est-ce qu'on fait pour choisir l'outil qui vraiment nous fait?
OK. Alors, c'est une excellente question. D'abord, ce que j'aimerais mettre en perspective avant qu'on parle exactement des aides antitabagiques, c'est qu'en tant que pharmacienne, moi, je suis souvent appelée à donner des conseils à mes patients pour les aider à arrêter de fumer. Et comme je leur dis toujours, en fait, la formule gagnante pour arrêter de fumer, c'est quatre éléments. Le premier, c'est la motivation. Mm-hmm. Le deuxième, c'est les aides antitabagiques desquelles on va parler dans les prochaines minutes. Le troisième élément, c'est d'avoir un plan d'action structuré.
Okay.
Et le quatrième élément, c'est d'avoir le soutien d'un professionnel de la santé.
Mmh.
Alors, si on parle des aides antitabagiques, qui sont le deuxième élément et qui sont pour moi un essentiel de l'arrêt tabagique. Tout à l'heure, j'entendais là une affirmation qui disait, bon, il y a des gens qui réussissent à arrêter de fumer sans aide. Or, il faut savoir que c'est vraiment une minorité de personnes qui sont capables d'arrêter, si je peux dire, à froid. On a tous des histoires d'oncles et de tantes qui ont arrêté du jour au lendemain. En pratique, c'est rare les gens qui réussissent à faire ça. On estime que c'est environ une personne sur 20, à peu près 5 à 7 seulement des gens qui pourront arrêter grâce à la volonté seule. Donc, faut être chanceux hein, quand
Mais
on est dans le 1 sur 20. Donc, on va s'enlever cette idée-là et tout de suite, on va se dire que ça prend en effet une aide antitabagique.
Okay.
De manière générale, on peut les diviser en deux grandes classes, les aides antitabagiques. D'abord, il y a les aides nicotiniques et les aides que j'appellerais non nicotiniques.
Okay.
Alors, si je commence avec les aides nicotiniques, ce sont des produits, des médicaments qui sont disponibles en pharmacie et qui se trouvent avec des remplacements de la nicotine. Donc,
avec, avec une prescription ou pas, même s'ils sont disponibles, est-ce qu'on a besoin d'en avoir?
En fait, ces produits-là sont tout à fait disponibles sans ordonnance.
Okay.
Donc, on peut se les procurer à la pharmacie. Même la plupart d'entre eux sont disponibles sur les tablettes.
Okay.
Toutefois, quand ils sont prescrits, ben, ça a l'avantage qu'ils sont souvent remboursés par les régimes d'assurance médicaments.
Bon.
Entre autres, celui de la RAMQ.
Okay.
C'est avantageux d'avoir une prescription. Cependant, ce que je dois vous mentionner, c'est que les pharmaciens, maintenant, on a le... Puis en fait, c'est à venir très, très prochainement, dans les prochains mois, avec la loi 41, on va se voir attribuer le privilège de pouvoir prescrire les aides nicotiniques.
Mmh.
Donc, au lieu d'aller voir
c'est
médecin, on
pourra
aller voir... Ben, c'est une très bonne chose.
Très bonne chose.
Puis déjà, ben, les pharmaciens ont déjà ce qu'on appelle des ordonnances collectives. En fait, ce sont des ordonnances signées par des médecins qui nous permettent de prescrire les aides nicotiniques. Alors, si quelqu'un veut s'en procurer, ils peuvent tout à loisir là, aller dans n'importe quelle pharmacie au Québec et demander aux pharmaciens une telle prescription. Et par le fait même, les pharmaciens, c'est des professionnels de la santé qui sont tout à fait habilités à aider les gens, à accompagner les gens dans un processus d'arrêt tabagique. Puis tout à l'heure, je vous mentionnais que le soutien d'un professionnel, c'est le quatrième élément clé.
Mm-hmm.
Donc, on peut trouver ce genre de soutien-là auprès de notre pharmacien.
Alors, donc, les quatre points sont importants. Qu'est-ce que vous posez comme question? Par exemple, moi, je suis une fumeuse. Je ne suis pas dans la vie, mais je serai une fumeuse. J'arrive, je viens vous voir. Je suis vraiment décidée, là. Je suis vraiment décidée à arrêter. C'est quoi la question que vous allez me poser pour les méthodes, la première question?
Bien, en fait, dans un premier temps, c'est sûr que je vais essayer d'évaluer effectivement votre niveau de motivation. Ensuite, on va voir un petit peu quelle est la meilleure formule pour vous. Puis, ça m'amène à vous dire, en fait, que parce que j'avais pas, j'ai omis de vous dire la deuxième classe de produits, ce sont les produits comme le Champix et le Ziban, qu'on appelle respectivement varenicline et bupropion. Ce sont des médicaments prescrits. Cette fois-ci, les pharmaciens, on ne peut pas les prescrire ces médicaments-là. Le Ziban, on le prescrit de moins en moins souvent parce que toute proportion gardée, si on regarde son efficacité, aussi son profil de sécurité, si je peux dire, donc le profil d'effet secondaire, contre-indication, précaution, il est somme toute moins intéressant que les autres options. Donc, c'est plutôt le Champix, en fait, qui est envisagé de nos jours comme médicament de prescription. L'avantage du Champix par rapport aux méthodes nicotiniques, c'est qu'il a une efficacité un peu plus grande. Donc, on va aller chercher des gens, tu sais, les plus coriaces, les plus réfractaires à arrêter de fumer. Donc, souvent, on réussit à les faire arrêter avec le Champix. Donc, ce qu'on gagne en efficacité, par contre, on le perd un petit peu du point de vue des désavantages, des effets secondaires.
Bon, au niveau du Champix, là, par exemple, moi, je vous dis, là, je fume deux paquets par semaine. Vous me mettez tout de suite au Champix?
Deux paquets par jour ou deux paquets par semaine?
Deux par semaine.
Pas nécessairement. En fait, là, ça va être là de voir. En fait, moi, je vous cacherai pas que personnellement, généralement, je suis plus encline à proposer les méthodes nicotiniques, particulièrement les patchs, les timbres qu'on applique sur la peau, par souci de simplicité, aussi parce que les timbres contiennent la nicotine, mais ne contiennent pas d'autres agents.
Okay.
Ils ont somme toute, pas beaucoup d'effets secondaires. Donc, souvent, j'aime bien travailler avec les timbres parce que ça fonctionne bien. Et les gens ont moins de risques d'avoir des effets secondaires.
Parlez-moi des effets secondaires. Quels sont ces effets secondaires? À quoi on doit s'attendre?
En fait, je vous dirais qu'avec le Champix, l'effet secondaire le plus fréquent et le plus dérangeant, ce sont les nausées, les vomissements. C'est environ 18 %, donc une personne sur cinq qui aura cet effet secondaire-là de façon notable.
Okay.
Et des fois, ça peut faire en sorte que la personne va éventuellement arrêter de prendre le médicament.
Malheureusement.
C'est ça, exactement.
C'est pas agréable,
il peut y avoir d'autres effets secondaires comme la bouche sèche, l'insomnie. Okay. Donc, avec le Champix, on court le risque un peu plus d'avoir des effets secondaires. Par contre, ça fonctionne un peu mieux. L'autre chose aussi, c'est que c'est un médicament à prendre deux fois par jour. Il y a des gens qui sont plus réfractaires à prendre par la bouche une pilule. Ils préfèrent avoir un timbre. Mais ceci étant dit, le Champix, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui a été fait pour la cessation tabagique. Contrairement à une croyance populaire, il y a beaucoup de gens qui croient que le Champix, c'est un antidépresseur, ce qui est faux. C'est vrai pour le Zyban, donc l'autre médicament par la bouche qui était au départ un antidépresseur, puis on s'est rendu compte que ça avait des vertus aussi pour la cessation tabagique, mais aussi des effets secondaires malheureusement. Donc, le Champix, c'est différent. Il s'agit vraiment au niveau du récepteur nicotinique dans le cerveau, là où ça compte, là où la nicotine fait son effet.
Okay.
Donc, c'est très avantageux aussi, surtout pour les gens qui ont essayé par le passé avec d'autres méthodes comme les timbres, les gommes, les pastilles et qui ont échoué auparavant.
Combien devons-nous donner de chance? Parce que, moi, j'en entends, puis là, surtout qu'on prépare cette émission, on a préparé cette émission, les gens nous ont envoyé leurs expériences. Il y en a qui m'ont dit, je l'ai fait à plusieurs fois. Est-ce qu'on, au niveau des timbres, est-ce qu'on doit se donner plusieurs chances avant de se dire, non, j'y arriverai pas? Qu'on se donne plusieurs chances, plusieurs fois de le faire?
À mon avis, oui. D'autant plus qu'on estime que pour un fumeur moyen, pour la moyenne des ours, là, on estime que ça prendra entre 5 et 7 tentatives en moyenne pour qu'une personne arrête de fumer. Donc, c'est attendu qu'il y ait des tentatives. Ce qu'on espère, c'est que d'une fois à l'autre, la personne va comprendre des choses parce que vous savez que d'arrêter de fumer, c'est une grande réflexion personnelle. Pourquoi je fume? Comment je peux remplacer le plaisir procuré par la cigarette? Donc, on espère que la personne avance d'une étape à l'autre. Bien sûr, il y a des gens qui réussissent du premier coup, fort heureusement. Donc, il faut garder courage. Et je vous dirais que plus la personne est outillée avant de commencer, donc si elle a les quatre éléments dont on parlait tantôt, je le répète, motivation, aide antitabagique, plan d'action et un soutien d'un professionnel, la personne, à ce moment-là, met toutes ses chances de son côté et elle multiplie les chances de succès de cette manière-là.
Et sa victoire. Merci beaucoup de le dire 5-7 fois parce que, justement, il y a des gens qui écoutent puis peuvent se dire « Ah, moi, ça n'a pas marché, je ne le ferai plus ». Là, vous donnez de l'espoir, Mme Duprat. Merci.
Mais ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Notre question aujourd'hui, mesdames, messieurs, tabagisme, pourquoi et comment arrêter? D'ailleurs, une très bonne campagne, je vais envoyer des fleurs à ceux qui l'ont faite parce qu'elle touche énormément en ce moment où on voit justement des gens qui ont le cancer et tout ça. Ça a une trachéo, un monsieur à la fin qui termine en disant que le tabac tue. Ça fait réfléchir justement en voyant ces images. Nous aurons notre coup de chapeau et puis elle a réussi 22 ans. Hein, la fumée pendant 22 ans, Véronique Porlier sera avec nous en studio pour nous parler de son expérience parce qu'il faut le faire après 22 ans. D'arrêter, donc ça veut dire que c'est possible. Et on parlait de la jeunesse, c'est souvent difficile parce que ça paraît bien, là, ça fait cool d'avoir une cigarette à la main et puis si tu ne l'as pas, là t'es pas cool, puis il y a des messages à passer et c'est vraiment difficile d'atteindre les jeunes à ce niveau-là, au niveau de la cigarette. Alors elle est là pour en parler, c'est Victoria Tremblay, leader de Montréal pour la gang des jeunes allumés. Bonjour Madame Tremblay.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, vous?
Oui. Alors, c'est ça, comment on fait pour parler aux jeunes puis leur dire que si tu fumes pas, mais t'as quand même l'air cool. T'as quand même l'air bien, t'es pas obligé de fumer là pour avoir l'air cool. Comment on fait pour envoyer le message?
Bien, les adultes peuvent sensibiliser les jeunes de leur entourage aux méfaits des dangers du tabac.
Mm-hmm.
Ça pourrait vraiment aider aussi.
Oui.
On peut faire plein de campagnes de sensibilisation aussi,
mm-hmm.
pour que plus d'enfants possibles soient au courant des dangers.
Mm-hmm. Et toi, ben, enfin, si tu me permets de te tutoyer, toi, est-ce que tu as déjà fumé?
Non, je ne fumerai jamais aussi. C'est pas mal renié de ma vie.
Okay.
Et je crois qu'encourager les compagnies à continuer à vendre leurs produits, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En plus, ruiner sa santé pour des raisons quelconques, ça sert à rien.
Mmh.
Et c'est vraiment mauvais. En plus, la fumée tertiaire, c'est mauvais pour les autres, donc fumer, ça peut être dangereux.
Mais comment t'as fait de pas aller avec les gens? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as eu de la pression des camarades, des gens qui disaient « ben là, t'es pas cool parce que tu fumes pas ». Comment ça a été dans ta vie, ça?
Moi, personnellement, j'ai jamais eu de pression de mes amis parce que j'ai pas vraiment d'amis qui fument.
Bon.
Je me tiens pas avec des fumeurs, donc mm-hmm. ça aide vraiment. Mais je connais beaucoup de personnes qui fument dans mon entourage aussi.
OK.
Donc, mais ça m'intéresse pas.
Et pourquoi t'as décidé de te joindre à ce mouvement? La gang allumée.
Je me suis dit que plus que je m'impliquais dans la gang allumée, plus mm-hmm. que je pourrais sensibiliser les jeunes et plus ma mère pourrait l'encourager à peut-être un jour arrêter de fumer elle-même.
Ah ah! Donc il faut que tu encourages ta mère d'arrêter.
Ouais.
C'est quoi les arguments? Là? J'aurais 13 ans, puis je serais à côté de toi. Puis essaye de me convaincre là, de ne pas fumer. C'est quoi tes arguments là? Je suis dans la cour d'école, j'ai 13 ans, je suis en train de m'allumer une cigarette devant toi. Qu'est-ce que tu me dis?
Je pourrais te dire que tout ce que ça va te faire dans la vie, c'est que tu vas peut-être perdre 10 ans de ta vie, mourir plus tôt, tu vas juste peut-être ruiner tes poumons pour rien, tu vas ruiner ton entourage aussi, tu vas juste perdre dans tout ça.
OK. Mais
être cool, ça va rien te servir.
OK, parfait. Puis là, moi, je continue à fumer devant toi. C'est quoi ton un autre argument que tu pourrais vraiment m'aider à faire en sorte que j'écrase ma cigarette?
Je pourrais t'expliquer les dangers, je pourrais t'expliquer ce qu'il y a dans la cigarette, la nicotine, exemple, ou tous les produits, là, il y a peut-être mille produits chimiques là-dedans, c'est vraiment dangereux.
Mm-hmm. Et comment tu penses qu'on peut, au niveau soit des adultes, au niveau du gouvernement, comment on peut rejoindre le message chez les jeunes pour qu'ils arrêtent de fumer?
Ben, il y a déjà des annonces là, à la télé, puis dans les films aussi, on pourrait arrêter de fumer. Je sais pas si vous avez vu ça dans les films, là, de plus en plus de fumeurs.
Mm-hmm.
Même parfois, les vedettes sont payées pour fumer dans les films.
Exact.
C'est horrible.
Ouais.
Donc, on pourrait vraiment arrêter de fumer dans les films pour que les jeunes veulent pas suivre leur idole.
OK. Et en ce qui concerne les dépanneurs, on a vu que souvent, ils n'ont pas le droit de les afficher, mais souvent, il y a des annonces pour quelques cigarettes qui sont à différentes saveurs. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Les saveurs, c'est pour attirer les jeunes, là, avec la couleur puis la saveur.
Mm-hmm.
Ben, c'est pas vraiment mieux que la cigarette. Ça va peut-être donner un goût, mais je trouve pas que c'est meilleur. Tant qu'à vendre des cigarettes, vendre les naturelles, pas besoin de mettre des produits dedans, me semble.
OK. Quand tu dis « moi, j'ai jamais arrêté », parce que tu n'as jamais voulu commencer, parce que qu'est-ce que ça te dégoûtait? C'était dès le départ, toi, c'était ça, ou c'est parce que tu voyais les autres fumer puis ça te dégoûtait? Pourquoi tu n'as jamais commencé?
Parce que je voyais les autres qui commençaient à fumer. Je voyais qu'ils toussaient beaucoup. Je voyais les problèmes que ça pouvait causer. Je les voyais détériorer leurs poumons, puis ça me dégoûtait. Je voulais pas devenir comme eux.
Mm. Alors là, il reste à ta maman. Qu'est-ce que tu vas faire pour réussir à la convaincre?
Ben justement, là, j'essaie de le dire à Télé, à la radio, qu'elle fume pour justement qu'elle arrête. Ouais.
C'est de la pression, ça, aujourd'hui.
Ouais.
Peut-être qu'elle va faire comme Claudia Benoît, qui était à l'équipe ici. Elle a écouté l'émission de l'année passée, et puis Sophie en direct, et puis elle a arrêté. Peut-être que ta maman va avoir écouté l'entrevue, puis donne-nous des nouvelles, alors. Merci,
oui.
Merci Victoria Tremblay pour ce que tu fais pour la gang des jeunes allumés.
Oui, merci.
Merci. Au revoir. Merci de nous écrire à Canal M. Toujours Claudia Benoît est en studio jusqu'à 13h. Prends les commentaires, viens me les porter. Donc, Carole Tremblay nous dit, nous avons donc une très grande force de caractère, mon époux et moi, car nous avons cessé sans aide et du jour au lendemain. Bravo. Pour ma part, j'ai fait un bilan et un scrapbook avec des photos. Tiens, c'est intéressant ça. Je ramassais tout jusqu'à la date fixée et je l'ai fait pour moi. Alors, c'est sympa ça, le scrapbook avec les photos. Alors, vous pouvez nous écrire jusqu'à 13h. On est rendu au segment de la fameuse cigarette électronique. On en a parlé tout à l'heure avec le docteur Stigui parce que vous le voyez souvent sur les tribunes, il la défend. Mais alors, il faut faire le tour de la cigarette parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Et Mario Bujol, directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé, est avec nous pour en parler. Bonjour, monsieur Bujol.
Bonjour à vous.
Vous allez bien?
Ça va très bien.
Quand je dis que la cigarette électronique est dans le vent, c'est la mode, c'est partout. Donc, est-ce que vous confirmez que c'est vraiment le dernier gadget, comme on dit?
Ben, en fait, c'est effectivement un gadget qui est assez populaire auprès d'une certaine proportion de fumeurs. Faut pas généraliser non plus, parce que selon les dernières données, on parlait d'à peu près 15% de la population qui en font une utilisation. Donc, c'est un phénomène qui est nouveau, qui est important, mais en même temps, il faut voir de quoi il est question au juste.
Alors, on ne fume pas, on le vapote. Est-ce que c'est une bonne transition pour commencer à arrêter de fumer la cigarette électronique?
C'est-à-dire que ça peut aider certaines personnes qui désirent cesser de fumer. Les gens qui l'utilisent le font parfois pour cette raison-là, le font aussi parfois pour réduire les risques associés à la consommation de tabac. Et par contre, ce qu'on voit, c'est en fait en termes d'efficacité, selon différentes études qui ont été menées là, un peu partout à travers le monde, on n'a pas des taux de réussite si élevés que ça après une période d'un an. Donc, des gens qui utilisent la cigarette électronique pour cesser de fumer, on parle d'un taux de réussite d'autour de 15 à 20 après un an, ce qui n'est pas mauvais, mais qui se compare à peu près là, au même taux de réussite qu'on obtient avec d'autres méthodes comme les timbres à la nicotine, par exemple.
OK, mais c'est quand même 15 à 20 vous disiez, hein?
Oui, tout à fait. Mais quand on regarde dans les tentatives des gens qui cessent de fumer, les gens qui utilisent aucune méthode en particulier pour arrêter de fumer, ils ont un taux de réussite d'à peu près 10 % après un an. Donc, donc on parle pas d'un taux si beaucoup plus élevé que ce qu'on obtient quand on n'utilise aucun moyen particulier pour cesser de fumer. Donc, c'est quand même intéressant, mais c'est pas miraculeux.
Alors, c'est ce que vous venez de dire. Quels sont les effets de la cigarette électronique sur la santé? Je veux dire, il y a quand même des produits là-dedans. Là.
Oui, il y a certains produits, en fait, qui, pris isolément, sont pas trop inquiétants. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que, pour une consommation prolongée et régulière de ces produits-là, est-ce que ça peut avoir des effets sur la santé? Par exemple, on sait qu'il y a de la glycérine dans la cigarette électronique. On sait qu'il y a du propylène glycol, qui est un produit qu'on voit dans d'autres types de produits de consommation. Mais ce qu'on ne sait pas et ce qu'on n'a pas mesuré dans ces produits-là, c'est quel est son effet sur la santé quand on l'utilise de façon prolongée pendant une bonne période de temps, comme c'est le cas pour les gens qui utilisent la cigarette électronique. Mais en même temps, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de risques associés à la santé avec les produits que contiennent la cigarette électronique que la cigarette de tabac comme telle. Mais en même temps, la question n'est pas de dire est-ce qu'on a un produit qui est complètement inoffensif. Donc, dans le cas de la cigarette électronique, ce n'est pas le cas. Il y a quand même des effets qui sont mesurés et on voit que ça peut avoir certains effets. Mais le risque, c'est sûr que le risque est moins grand que le nombre de produits qu'on retrouve dans la fumée de tabac comme telle.
Parce que paraît-il qu'il y a, je suis allée voir là, évidemment pour préparer cette émission, j'étais comme perdue parce qu'il y avait vraiment des... Bon, avec nicotine, sans nicotine. Donc, on peut quand même, pour des grands fumeurs, j'imagine qu'ils en mettent un tout petit peu dedans. Puis, on peut avoir sans nicotine, ce qui est mieux quand même pour notre santé.
Bien, l'effet de la nicotine, c'est pas ça qui cause des problèmes de santé, des problèmes respiratoires. Ça a plus un effet au niveau cardiovasculaire. Bien sûr que c'est pas inoffensif comme tel, puis c'est pour ça que la nicotine est un produit bien réglementé de façon générale. Mais dans le cas de la cigarette électronique, c'est pas du tout réglementé, peu importe ce qu'on y met. Et en plus, c'est que les gens, en fait, se donnent eux-mêmes leur propre dose. Donc, définissent un peu la quantité qu'ils vont mettre dans leur cigarette électronique. Et c'est là peut-être où il y a des risques plus important pour la santé si les gens allaient avec des doses trop élevées ou que ça pourrait avoir des effets sur leur santé dans ce sens-là et qui serait beaucoup plus important.
OK. En ce moment, il y a certaines municipalités qui commencent à l'interdire, soit dans les, bon, dans les restaurants, dehors, dans les parcs. Est-ce que ça veut dire que la fumée secondaire de la cigarette électronique est aussi nocif? Est-ce qu'on a des études? S'il y a des interdictions, c'est qu'on on lève le drapeau rouge?
Bien, c'est que, d'un, il n'y a pas effectivement d'études très poussées qui permettent d'aller savoir quel est l'effet à plus long terme sur les gens qui sont exposés. Ça, on n'a pas d'études de données précises là-dessus. Mais par contre, ce qu'on veut éviter aussi, c'est de renormaliser ou de banaliser le fait de pouvoir poser un geste comme celui de fumer la cigarette électronique, qui est un peu de ramener dans les lieux publics où c'était devenu interdit de fumer. Cet usage-là, cette façon-là de consommer un produit. Donc, c'est autant en termes d'effet que ça peut avoir auprès des jeunes qui pourraient de cette façon-là valoriser ou avoir une image plus valorisée du geste de fumer ou auprès de gens qui ont cessé de fumer qui pourraient être davantage portés à reprendre et à reconsommer soit de la cigarette électronique ou carrément du tabac. Donc, c'est aussi cette dimension-là dont on tient compte quand on interdit de fumer. Et aussi, ben, ça dérange parce que la fumée, elle a quand même, la fumée de cigarette électronique, elle a quand même une odeur et c'est des saveurs, bon, de fruits, de différentes odeurs, et ça peut déranger les gens autour d'eux aussi, pour ceux qui consomment la cigarette électronique.
Mais quand même moins dommageable, j'imagine qu'on, par exemple, quelqu'un qui est dans une voiture, qui est en train de fumer une cigarette normale, là, c'est plus dommageable que celui qui est en train de fumer avec la cigarette électronique.
Oui, ben selon la quantité de produits chimiques qu'on peut retrouver dans une cigarette électronique versus une cigarette de tabac, c'est ce qu'on conclut effectivement. Mais comme je le dis, on ne connaît pas les effets. Est-ce que parce qu'on sait par exemple que certains des produits de la cigarette électronique ont des propriétés irritantes pour les voies respiratoires. Donc est-ce que pour des non-fumeurs qui peuvent être exposés, ça peut créer des problèmes? On sait que même chez les consommateurs de cigarettes électroniques, il y a des réactions. Il y a de l'irritation, il y a de la toux souvent qui est combinée avec l'usage de la cigarette électronique. Donc, en fait, parce qu'on ne connaît pas bien les effets sur la santé de ces produits-là qu'on retrouve dans la cigarette électronique, ça permet difficilement de savoir vraiment le risque réel auquel les gens se trouvent à être exposés en étant soit eux-mêmes des consommateurs ou en exposant les autres autour d'eux.
Oui, on est en train d'écrire le présent finalement. On ne sait pas encore, on n'a pas trop d'études, donc on se méfie et vaut mieux aller dans cette voie-là.
Et c'est, je pense, très sage de le faire. C'est-à-dire qu'il faut pas faire preuve de manque de prudence dans ce sens-là. Et ce serait bien dommage si on permettait, puis on disait, bon, dans le fond, il y a le risque est moindre, donc allons-y gaiement, puis permettons ça n'importe où. Laissons l'idée de pouvoir encadrer ou de restreindre l'usage à certains lieux, comme c'est le cas actuellement. Et qu'on se rende compte peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans que finalement il y a des effets importants sur la santé des gens. Donc, ça se peut que ces effets-là soient minimes. Mais actuellement, on n'est pas capable de le démontrer. Et ce qu'on voit par contre, c'est qu'il y a certains effets sur la santé des consommateurs de cigarettes électroniques. Puis ça, on le voit, c'est documenté de plus en plus. Bon, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que ces risques-là sont suffisamment importants comparativement aux effets du tabac comme tel? C'est tout le débat, puis c'est tout le manque d'informations précises là-dessus qui nous permet difficilement de trancher là-dessus.
Alors, en terminant, non loin de moi de faire du politique avec ça, mais que pensez-vous de l'affirmation du ministre Barrette qui considère que c'est un outil efficace pour arrêter de fumer?
Ben, en fait, je pense qu'il a basé son jugement sur une information, un article de journal qui était paru dans la presse la semaine dernière. Mais dans cet article-là, il manquait beaucoup d'informations. Par exemple, on parlait de taux de réussite après 30 jours. On disait des gens ont réussi, 43% des gens qui ont utilisé la cigarette électronique ont réussi après 30 jours. Mais après 30 jours, c'est très peu. Donc, il faut voir à plus long terme, notamment après un an, quel est le taux de réussite. Puis quand on regarde les études qui ont été faites à ce sujet-là, bien, on voit que le taux n'est pas si élevé que ça. Donc, il faut faire attention avant de conclure que c'est une mesure très efficace. Il faut vraiment revoir l'ensemble des données puis s'assurer qu'on porte un jugement en ayant toute l'information nécessaire.
Et comme vous dites, les études sont en train de se faire. Donc, il faut plus d'études pour pouvoir faire des confirmations, des affirmations à ce niveau-là.
Oui, puis il faudra voir la méthodologie de l'étude qui a été utilisée, tout ça, parce que tout ça n'a pas été rendu public encore. On n'a pas accès à cette information-là. Donc, les gens spéculent un peu à partir d'informations qui ont été transmises dans un journal, alors qu'on n'a pas tous les détails de l'étude. Et moi, je suis très curieux de voir les résultats.
Puis, tant mieux, oui.
si c'est extraordinaire en termes de taux de réussite. Mais ce qu'on voit dans des études avec des échantillons encore plus importants et qui ont été faites ailleurs, notamment aux États-Unis, c'est que les taux de réussite après un an ne sont pas si élevés que ça.
Merci, M. Pujol.
Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
Au revoir. Alors, je tiens à vous mentionner, mesdames, messieurs, le défi J'arrête, j'y gagne, ça commence du 1er mars au 11 avril 2015. Et pour les informations, la ligne 1-866 J'arrête, très important, ça va vous donner un outil nécessaire. Et puis, vous savez, ça fonctionne. Elle est là, coup de chapeau en studio, Véronique Porlier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre coup de chapeau parce que vous avez réussi.
Oui, hein? Oui, j'ai réussi.
C'est quelque chose, je disais 22 ans, racontez-moi quand est-ce que ça a commencé, la première cigarette?
Comme à peu près, je vous dirais, la plupart des fumeurs que je connais, on commence tout ça à l'adolescence. Moi, j'avais comme 13 ans et demi, 14 ans quand j'ai commencé
quand
à
même,
fumer.
Hein?
Oui, de bonne heure. Mais il faut dire, comme que je jasais tantôt, mon père fumait 3 paquets de cigarettes par jour quand j'étais petite.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, j'ai fumé toute ma vie sans le vouloir, si
Parce
on veut.
Parce qu'il fumait dans la même pièce?
Oui. Nous autres, on était dans les années où on n'ouvrait pas les vitres de l'auto, justement, parce que le courant d'air était plus dangereux que la cigarette. Donc, oui, non, c'est ça. Quand mon père a arrêté de fumer, moi, j'ai commencé à fumer, malheureusement.
OK, à 13 ans.
Oui.
Alors, est-ce que par la pression des amis ou tout
c'est
simplement...
Avec, à l'adolescence, oui, mes amis fumaient toutes. Puis ça a commencé comme ça. C'est comme, bon, gars, fume donc, prends-en une, toute l'équipe. Au début, j'avais dit non. Puis à force de me le faire demander, j'ai fait OK, je me suis étouffée solide en plus de ça, la première cigarette.
Ouais.
Puis j'ai persisté, puis j'ai accroché très, très rapidement.
Ah. Et donc, ça avait l'air de quoi pendant... C'est 22 ans, parce que c'est beaucoup, là, 22 ans?
C'est beaucoup. Je vous dirais qu'avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai scrappé ma jeunesse à fumer.
Ah.
Sérieusement, oui. Après 3 ans, là, ça fait 3 ans, moi, que j'ai arrêté de fumer, là, puis de comment je me sens aujourd'hui, je prends la Véronique d'aujourd'hui, qui a 39 ans, sur le bord de 40, puis si je me mettrais, mettons, à courir comparativement à moi-même, quand j'avais 20 ans, je me clenche à plate couture, c'est sûr et certain.
Alors donc, c'est une nouvelle Véronique que j'ai en studio, là.
Oui, une nouvelle Véronique.
Puis c'était combien de cigarettes? Vers 22 ans, là, on va dire, on va prendre la dernière année, ça avait l'air de quoi au niveau du nombre de cigarettes?
Moi, je fumais 1,5 paquet par jour, donc environ 40-45 cigarettes par jour. J'étais une grosse
fumeuse. Presque allumée la cigarette avec l'autre, là?
Oui, presque.
OK.
Oui.
Quand est-ce que vous avez dit, j'écrase, c'est terminé?
C'est une longue histoire, ça, parce que j'ai essayé d'arrêter de fumer, je vous dirais, au moins 7 fois avant de réussir pour le vrai. J'ai eu 7 tentatives dans les années qui ont précédé ma 2012, là, que j'ai arrêté de fumer. J'arrêtais des fois 3 semaines, d'autres fois 3 mois. Moi, c'était ma période critique, là. Après 3 mois, je recommençais à fumer. Fait que à toutes les fois, dans le fond, faut pas prendre ça non plus comme un échec, parce que moi, j'ai considéré ça comme mes coups de pratique.
Qui a
fait
mal,
que
ça.
J'ai réussi à un moment donné, parce que, bon, je me prenais
avant
des notes.
Avant d'arriver au circuit.
Oui, c'est ça, c'est
okay.
ça. Fait que je prenais mes notes. OK, j'ai recommencé à fumer pour telle raison. Parfait, fait que le prochain coup que je vais arrêter, je vais faire attention à ça. Fait que graduellement, bien, j'ai passé au travers de toutes mes difficultés, puis j'ai fini par arrêter pour le vrai.
OK, les 7 tentatives, le pourquoi? La première fois que vous dites « ça y est, c'est fini, là, je veux plus », qu'est-ce qui faisait en sorte que vous vouliez arrêter?
Ma santé, ça c'est sûr et certain, je m'en rendais compte que ma santé était moins bonne qu'elle était. Ça pue aussi, j'étais la seule à fumer chez nous, j'ai des enfants. Et puis, je voulais pas que mes enfants commencent à fumer. Okay. C'était surtout ça, j'ai toujours dit à mes enfants, même si je fumais, les filles, vous fumez pas, mais sauf qu'on envoie un drôle de message quand que la maman fume, mm-hmm. puis tu dis à tes enfants, fais ce que je dis, pas ce que je fais.
Ouais.
Fait qu'il fallait que j'arrête de fumer.
Alors, comment ça a fonctionné, là? On parle d'il y a 2 ans. Là, les gens vous écoutent, là, parce qu'il y a 3 ans, les gens sont accrochés au micro, là, puis à la radio, parce qu'il y en a plein, là, qui m'ont écrit.
Oui ou non, c'est ça qui
veulent arrêter.
Qu'est-ce
qui a fait que ça a marché, là?
Qu'est-ce qui a fait que ça a marché?
C'est quoi le miracle, là?
Le miracle, bon, un, c'est les coups de pratique que j'ai eu avant. Ça, c'est sûr et certain que ça y est pour quelque chose. Puis, quand j'ai arrêté de fumer le 5 janvier 2012, ça faisait déjà quelques semaines que moi, je me disais, à toutes les fois que je fumais, « Ah, je t'aime pas. Ah, t'as-tu vu comment que je pue quand que je fume? » Puis que je me parlais à moi-même, je disais, ma cigarette, c'était ma meilleure amie. Ça a été ma meilleure amie pendant 24 années. Puis là, j'essayais justement que ça devienne mon ennemi. Fait que je me suis beaucoup parlé à dire « Je t'aime plus, tu m'écœures, regarde, là, je suis obligée de fumer, puis j'aime pas ça, puis tu sais, tu me tiens en chaîne, et etc., etc. » Fait que il y a le soir du 4 janvier, quand je me suis couchée, j'ai fini mon paquet de cigarettes. Puis là, je me suis dit « Demain, je ne vais pas m'en acheter. » Je me suis couché le 4 janvier, je venais de fumer ma dernière cigarette, je m'en souviens encore, écoute, je suis dans ma salle de bain chez nous, je me regarde dans le miroir, je la fume, je la regarde, puis je parle, puis je dis là, toi, c'est la dernière, je ne fumerai plus jamais. Je l'ai écrasée, puis j'ai plus jamais racheté de cigarette et j'ai plus jamais retouché par après.
Donc, rien sans patch, rien...
Mais non, que... non, j'ai pris des patchs, par exemple. Ça, j'en avais, mais j'en avais déjà dans mon armoire.
Okay.
En prévision du bon moment.
OK, justement. Donc les patchs avaient été achetés en avance.
Oui, les patchs avaient été achetés en avance. Ça faisait peut-être, je vous dirais, un bon 2 mois certain que je me mindais à dire, faut que j'arrête de fumer, j'aime plus ça fumer, je me sens pas bien avec ça. Mes enfants n'aimaient pas ça, tout le monde n'aime pas ça
okay.
non plus.
Donc, ce soir-là, vous écrasez pour de bon.
Oui.
Les patchs, vous les mettez pour les prochains jours?
Oui, oh mon Dieu, oui, j'ai fait toutes mes patchs au complet. Ça,
puis
j'ai
ça, fait, est-ce que ça allait... Des fois, on parle là, du café, là. Cigarette-café. Ça,
ouais.
Est-ce que c'était le moment le plus douloureux?
Je vous dirais qu'il a fallu que j'arrête la caféine en même temps que le café. Je pouvais pas arrêter un sans l'autre. C'était impossible dans ma tête d'arrêter. Moi, c'était pas du café, c'était de la liqueur. Là. J'étais une grosse, grosse buveuse de coke. Puis au lieu de prendre un café, moi, le matin, c'était un coke, fait que c'était aussi pire. Là. Mais
Donc ça
a fallu que j'arrête. Oui, il a fallu absolument que j'arrête les deux. Puis ça, je l'avais vécu avant. J'ai déjà essayé d'arrêter de fumer un sans l'autre.
OK.
Impossible.
Maintenant, physiquement, là, parce qu'il y a vraiment des gens qui vous donnent l'espoir, comment vous sentez? Depuis, est-ce que les résultats, vous les avez vus immédiatement, physiquement, là?
Je vous dirais que les 3 premiers mois... Ma santé, j'ai toussé énormément. Fait que là, je me disais, écoute, ça doit être...
Après,
j'ai arrêté de fumer, on dirait que le système se débarrasse de toutes les cochonneries qu'on y a enfilées dans les dernières années. Fait que oui, on peut tousser plus, etc. Puis je me souviens aussi que j'ai déjà recommencé à fumer à cause de ça. Je disais, voyons donc, j'arrête de fumer, puis je fume moins bien que quand je fumais.
Donc, il y a
une petite période de transition à faire que non, on file pas très fort. C'est une désintox, là. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, aussi, la date, ça tombait encore. J'étais encore en vacances, puis je vous dirais que les 3 jours qui ont suivi mon arrêt de fumer, je les ai passés presque au lit. Là, je filais pas parce que, bon, j'ai arrêté la caféine en même temps. Fait que maux de tête, maux de cœur, etc.
J'étais pas très parlable
dans les premiers jours.
Ça, c'est normal. Là,
oui, c'est normal. Ça, on a une période d'adaptation.
Le souffle, est-ce que vous avez quelqu'un qui manquait de souffle avant la cigarette?
Ben oui, j'étais asthmatique, je le suis encore d'ailleurs.
Mais moi?
Mais là, oui, aujourd'hui, écoutez, pour vous faire pour vous donner un petit peu un exemple, là, parce que c'est sûr que les gens me voient pas, là, mais j'ai perdu 36 livres. Je me suis mis en forme, je fais des courses extrêmes. J'ai plus rien à voir avec...
Ça, ça pouvait pas se faire, les courses extrêmes avant, hein?
Non, impossible. Impossible, j'aurais mouru.
C'est sûr
et certain, j'aurais jamais été capable de faire le quart de ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est sûr, sûr, sûr.
Ben, merci. C'est un très, très beau témoignage. Et puis, je vous félicite. Bravo.
Ben, merci beaucoup.
Sans doute avoir beaucoup de gens qui vont vous écrire. Et puis, c'est possible. Vous en êtes la preuve.
Oui,
la
c'est possible.
Personne à la fois. On va y arriver.
Oui,
comme on dit.
J'espère.
Merci. Merci à mon équipe, Jean-Sébastien, La Liberté à la réalisation de l'émission. Christiane Campagna à la recherche et Claudia Benoît, qui elle-même a arrêté de fumer, qui est aux médias sociaux. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.